On va continuer dans l'étude de la lettre, deuxième lettre de Pierre. Donc je vous invite à vous y tourner. 2 Pierre 2, le chapitre 2. On va utiliser à partir d'aujourd'hui, on a commencé la semaine dernière, la Bible Second 21. On utilisait jusqu'à présent pour le commentaire de la Bible Colombe, à la Colombe, c'est la seconde révisée, qui malheureusement n'est plus tellement imprimée, et comme la mienne tombait un peu en ruine, on a décidé de passer à cette version plus moderne. C'est la version qui est aussi disponible en Bible à bon marché, la Bible Second 21. Au départ, c'était 1,50 € pour le prix d'un café, vous pouvez avoir une Bible. On a remplacé les Bibles qu'on vous prête le dimanche matin par cette version. Et donc, si vous avez besoin d'acheter une Bible, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on fait le stand en ce moment, mais vous pouvez trouver des Bibles. Maintenant, c'est une version populaire et qui est assez fidèle, mais avec des simplifications. Par exemple, les sacrificateurs sont appelés des prêtres. Ce qui a toujours été le cas, mais il y a des particularités de traduction qui sont des fois un peu gênantes, et j'avais toujours du mal à parler du souverain sacrificateur pour désigner le grand prêtre. Donc maintenant, on va pouvoir parler du grand prêtre simplement, et notre grand prêtre à tous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce temps. Merci de ce que nous avons le choix dans les traductions que nous pouvons utiliser pour connaître ta parole, Seigneur. On pense à tous ceux qui n'ont pas ce privilège, ce luxe. On pense à nos frères et sœurs persécutés de par le monde qui n'ont pas accès à des Bibles, des versions. Il y a même des langues qui n'ont pas encore de traduction de ta parole, Seigneur. On te remet ces groupes, ceux qui travaillent pour les traduire. Et Seigneur, on prie surtout qu'on traite ta parole avec le respect et l'émerveillement qu'elle est, Seigneur, de pouvoir te connaître à travers cette parole, Seigneur, pour mieux t'aimer, mieux te servir. Seigneur, nous te remettons ce temps dans ta parole. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de l'apprécier, mais surtout de la mettre en application, Seigneur. Tu nous mets en garde contre des dangers qui nous menacent, qui menacent ton Église. Tu reprends nos attitudes, Seigneur, tu reprends nos péchés. Aide-nous à la lire avec le désir de lui obéir et de la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, merci de ce que ta parole nous dit, que tu as mis ta parole au-dessus de ta réputation, Seigneur. Ta parole, c'est un trésor, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle nous dirige vraiment, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit qui l'a inspiré et qui est présent en nous, parmi nous, pour la restituer de façon vivante et forte, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Prions aussi pour nos frères et sœurs dans les autres églises de la ville qui t'adorent en esprit et en vérité. Touche-les, parle-leur, encourage-les, sois glorifié, Seigneur, dans ton corps qui est l'Église, Seigneur. Amen. Amen. On a abordé la semaine dernière un des dangers dans la croissance du chrétien. Cette deuxième lettre de Pierre, on a vu que c'est un encouragement à grandir dans la foi, dans la connaissance de Christ. C'est le désir de Dieu et c'est notre désir de pouvoir grandir dans la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. On a dit la semaine dernière que, quelque part, le but de la vie, c'est d'aimer Dieu. Parce que c'est le plus grand commandement qui nous a été donné, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pour le servir et l'amener aussi à Dieu. Pierre a déjà parlé de comment croître dans la connaissance de Dieu en nous disant qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. On n'avait pas besoin de chercher, comme on dit aujourd'hui, midi à 14h ou chercher de nouvelles choses. Tout ce que nous devons savoir pour connaître, aimer, servir Dieu nous a déjà été révélé. Mais il veut nous mettre en garde contre les dangers qui nous menacent. Et un de ces dangers, c'est les faux enseignants, c'est les prétendus enseignants. Dans le passé, on a vu dans le début du chapitre 2, il a évoqué des faux prophètes qui ont fait trébucher ceux qui voulaient vraiment connaître et servir Dieu. C'est quelque part, je disais la semaine dernière, ne pas avoir à parler de ces choses, de ces faux enseignants, mais on sait que Satan, notre ennemi, un ange déchu, pas une jolie allégorie, quelqu'un qui a vraiment existé, qui existe vraiment, qui a un grand pouvoir encore, qui est en liberté, même s'il a été vaincu à la croix. Pour l'instant, il est libre de circuler sur la terre. Il suffit malheureusement de lire les journaux, de regarder les nouvelles, de se connecter sur Internet pour voir qu'il est encore à l'œuvre, qu'il y a de la corruption, il y a de la mort, il y a des guerres, il y a de l'immoralité de par le monde. Le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. Ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu, c'est le monde tel que l'homme l'a rendu en suivant son cœur. Le péché est entré dans la race humaine lorsque nos ancêtres ont désobéi à la parole de Dieu. Là aussi, ça n'est pas une jolie légende, une jolie analogie, une jolie allégorie. La science aujourd'hui reconnaît qu'on descend tous d'un seul couple. Il y a plein de nouvelles qui fortifient, qui justifient, qui sont une preuve logique de la foi chrétienne, mais les médias se gardent bien d'en parler. Sachez que votre foi, elle est basée sur des faits, et qu'elle n'a pas à... Vous n'avez pas à être mal à l'aise. Ce que vous croyez est plus justifié que ce que croient la plupart des gens. Lorsqu'on voit la merveille qu'est l'univers, la merveille que chacun de vous est, du plus petit au plus grand, c'est un miracle que vous existiez, que vous puissiez être en relation les uns avec les autres, que vous puissiez être touché par la beauté de la nature. Toutes ces choses, certains disent, c'est le résultat du hasard. Si on étudie la science, si on étudie les mathématiques, les probabilités, on s'aperçoit que pour que toutes ces choses puissent tomber juste et permettre qu'on soit là aujourd'hui, qu'on puisse apprécier la beauté de la nature, apprécier l'amitié qu'on a les uns pour les autres, apprécier Dieu, c'est impossible sans une volonté de mettre ces choses en place. On a dit très justement que de penser qu'on est le fruit du hasard, que notre vie sur terre, le fait que sur la terre on soit pas trop éloigné du soleil, qu'on soit pas trop loin de lui, qu'on soit pas trop loin, qu'on soit pas trop près, qu'il y ait des constantes dans l'univers qui permettent que nous vivions, que nous existions, c'est improbable au plus haut degré. Et quelqu'un vous avez peut-être entendu parler de ça, croire qu'on est là par hasard, c'est croire que le Boeing 747, ou on dirait aujourd'hui l'Airbus A380, est le résultat d'une tornade qui est passée dans un tas de ferraille. Et c'est tellement stupide que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de dire que oui, c'est très improbable, mais on va rallonger le temps de ces changements. La première tornade qui est passée n'a pas réussi, mais la milliardième tornade a réussi enfin à créer un avion prêt à décoller. C'est stupide. N'ayez pas peur de la validité de votre foi. Vous n'avez pas à rougir de votre foi. Et le danger, c'est qu'il y a des hommes qui utilisent votre foi pour leur propre ou votre aspiration à connaître un Dieu. Ils l'utilisent pour leur propre intérêt. Et ça met Dieu en colère. Puissions-nous jamais être un obstacle à ce que les gens connaissent vraiment Dieu, fassent sa connaissance, sa découverte et viennent à lui. C'est tellement injurieux pour Dieu, ce genre de comportement, ces faux enseignants, ces prétendus enseignants, que Dieu nous met en garde à plusieurs reprises dans la Bible. Ici, dans ce passage de 2 Pierre, il y a une autre épître par un dénommé Jude qui aborde les mêmes sujets avec la même colère. On va voir que Pierre est en colère contre ses faux enseignants. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, souvent au nom de l'amour de Dieu qu'on doit avoir les uns pour les autres, n'ose pas reprendre ces faux enseignants. On les laisse avoir accès à des chaînes de télévision où ils racontent n'importe quoi. Ils savent dire ce qui plaît aux hommes et non pas à Dieu. Ils mentent pour vous attraper dans leur filet par intérêt personnel. Je dis qu'il est en colère. Regardez ce qu'il dit au verset 12 du chapitre 2, parlant de ces prétendus enseignants. Ils sont pareils à des animaux dépourvus de raison. Ils sont destinés à être capturés et abattus. Tous ces faux prophètes, ces faux enseignants, ce n'est pas des gens qu'on devrait laisser libres de partager n'importe quoi. Encore une fois, les faux enseignants, ce n'est pas des personnes qui peuvent enseigner des doctrines incorrectement par ignorance. Personne ne prétend avoir une connaissance parfaite de ce que dit la Bible. On a l'exemple d'Apollos qui enseignait, mais qui ne connaissait pas très bien le sujet du baptême, et Priscille et Aquilas l'avait repris en douceur, mais il l'avait enseigné. Un prétendu enseignement, un faux docteur, comme on les appelle par un autre terme, ce sont des croyants, des prétendus croyants, qui ont entendu la vérité, mais qui enseignent des mensonges pour leur propre gloire, pour leur richesse personnelle, pour leur enrichissement personnel, pour leur plaisir personnel. Ils utilisent des moyens sournois. Et les premiers versets qu'on a lus la semaine dernière parlaient de leur méthode, de leur condamnation. Ils cherchent à être populaires. Ils agissent de façon sournoise. leur vie contredit leur enseignement et leur hérésie conduit à la perdition. Mais on va lire à partir du verset 9. On reprend le verset 9 qu'on avait brièvement commenté la semaine dernière. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, encore une fois, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder et se sentent des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Parole très forte, parole très graphique, mais qui exprime la colère de Pierre et du Saint-Esprit contre ceux qui utilisent la soif de connaître Dieu, de ceux qui nous entourent, pour servir leurs propres intérêts égoïstes avec mépris de la vérité. On a parlé du verset 9 en disant que il faisait allusion à Lot, le juste, qui avait été profondément attristé de la conduite immorale des hommes débauchés de Sodome et Gomorre. Il avait fui au dernier moment. Sa femme, elle, avait continué de regarder vers Sodome et avait été transformé en pilier de sel, en statue de sel. Mais Pierre reconnaît que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Entre parenthèses, c'est souvent un verset qui permet de penser que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation. Dieu va enlever de l'épreuve les hommes pieux, ça ne veut pas dire des hommes parfaits, mais des hommes qui cherchent à plaire à Dieu et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Et parlant de ces hommes injustes, il nous dit, c'est le cas de ceux qui, dans un désir d'impurité, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Il parle des faux enseignants dont il a commencé à parler au début du chapitre 2. Il continue dans sa pensée. Il nous dit qu'en fait, il décrit leurs caractéristiques, leur caractère. Ils sont impurs, ils sont motivés par la recherche des plaisirs de la chair. La chair ici, c'est encore une fois, c'est pas seulement au niveau sexuel, bien que une sexualité perverse soit en jeu. La chair, c'est tout ce qui fait attrait à notre vieille nature égoïste, notre vieille nature belliqueuse, notre vieille nature préoccupée d'elle-même. Et tous ces faux prophètes, pour aujourd'hui, le Saint-Esprit peut nous donner le don de discernement. C'est un don spirituel pour reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Et force est de constater que ce don n'est pas reçu par tous ceux qui viennent à Christ, et qu'aujourd'hui encore, c'est une petite parenthèse, il y a beaucoup de faux enseignants. On parle souvent des télévangélistes américains, il y a des chaînes qu'on peut capter ici où on voit des charlatans spirituels qui profitent de la crédulité de beaucoup de chrétiens, de nouveaux chrétiens ou de chrétiens qui sont mal enseignés pour récolter des fonds, pour s'enrichir personnellement, pour séduire les gens, les femmes notamment si ce sont des hommes. Et c'est un vrai problème dans l'Église moderne. On a tendance à penser que si c'est grand, c'est bon, que si c'est riche, c'est encore mieux. D'où la puissance de persuasion de ces faux prophètes qui ont, entre guillemets, réussi dans les affaires de religion. Et on a tendance à juger de la véracité de leurs propos par la taille de leur ministère. Il y a des mouvements, par exemple au Japon, il y a un mouvement qu'on appelle Soka Gakkai, qui n'a rien de chrétien, mais qui est très populaire. C'est pas pour autant que c'est la vérité. Paul déjà parlait des habitants de la ville de Bérée et les complimentait parce qu'ils allaient voir si ce que Paul leur disait était conforme à la parole de Dieu. Le critère, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas l'attrait physique, personnel, le charme des personnes qui vous parlent de la Bible qui compte, c'est la conformité à la parole de Dieu. Et je vous invite toujours à aller voir si ce que je vous raconte est conforme à ce qui est dans la parole. Alors après, comme je disais, il y a des points de doctrine qui ne sont pas évidents pour tous, sur lesquels on peut avoir des points de vue différents. Tout à l'heure, je vous ai dit que le verset 9 pouvait être utilisé pour montrer qu'il y avait un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, des personnes sincères et dignes de respect ont des convictions différentes en se fondant sur d'autres passages. On est tous appelés à se faire une opinion personnelle et à savoir la défendre, mais ce n'est pas nécessairement des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est ceux qui sont décrits ici. Ils ont un grand orgueil. Ils ont un désir d'impureté. Ils courent après les plaisirs de la chair. Ils méprisent toute autorité. Ou on peut dire, le mot, c'est ils méprisent toute seigneurie. Ils ne respectent personne. Que ce soit Dieu ou que ce soit d'autres responsables d'église ou des étudiants de la Bible, ils ne respectent personne. Ils sont présomptueux. Ils sont arrogants. Et ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. D'autres passages, d'autres versions disent les gloires. Alors, qui sont ces gloires ? On peut penser que ça peut être des personnes dans des positions d'autorité, que ce soit des gouvernants, que ce soit des personnes qui méritent d'être respectées. Entre parenthèses, on vit à l'époque des guignols de l'info et on a tendance à ne plus rien respecter. Souvent, les hommes politiques qui occupent des fonctions qui sont dignes de respect ne sont pas des hommes nécessairement respectables ou ne sont pas des hommes parfaits. Et notre tendance est de critiquer, nous ne devons pas... Si nous passions autant de temps à prier pour eux que nous passons de temps à les critiquer, les choses iraient peut-être mieux. Et je parle pour moi-même. Vous m'avez déjà entendu m'énerver contre certaines décisions politiques que je trouve aberrante ou manquant de courage, de foi dans l'avenir, dans un Dieu qui voudrait améliorer les choses. Mais nous devons montrer du respect pour les positions que ces personnes occupent. Et encore une fois, plutôt que de les critiquer, prions pour eux. Prions pour ces personnes. Ça peut être donc des personnes en autorité terrestre, mais le verset 11, « Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. » Si on regarde le passage dont j'ai parlé tout à l'heure dans Jude, au premier chapitre, Jude c'est facile, il n'y a qu'un seul chapitre, c'est une petite lettre. Il est dit que, parlant un peu de ces mêmes personnes, au point que certains pensent que Jude a copié sur Pierre ou Pierre a copié sur Jude, je pense que c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce même souci de mettre en garde l'Église contre les prétendus enseignants. Verset 8 de Jude, Jude 1-8 ou Jude 8, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Un épisode qui n'est pas relaté par ailleurs dans la Genèse ou dans d'autres passages de l'Ancien Testament, mais qu'on découvre par cette parole inspirée de Jude, qui a une dispute entre le diable et l'archange Michel au sujet du corps de Moïse. On n'en sait pas plus que ce qui est dit ici. On ne sait pas si Satan voulait récupérer le corps de Moïse pour le ressusciter. Satan a des pouvoirs incroyables. C'est un ange déchu, mais c'est un ange puissant. peut-être pour l'habiter par l'esprit du mal de Satan et lui faire dire des choses qui auraient été contraires à la volonté de Dieu. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'archange Michel, qui était un personnage puissant et important, spirituel, il n'a pas osé insulter Satan. Il lui a dit que le Seigneur te punisse. Et ça devrait nous mettre en garde. On voit des fois sur des programmes de télé des gens qui prétendent vouloir botter les fesses de Satan. Ce sont des propos stupides, injurieux, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on ne s'amuse pas à aller botter les fesses de Satan. Je vous le déconseille vivement. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est « Va voir mon frère Jésus, et Jésus peut s'occuper de lui. » Et ça, dans certains mouvements charismatiques, il y a des réunions où on se met en battle dress, on met des uniformes de guerre pour faire de la prière contre Satan. Non, ce qu'on est censé revêtir comme instrument, comme panoplie, c'est dans Éphésiens qu'il nous est dit, Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, faites aussi bon accueil au casque du salut, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça, c'est la façon dont nous devons nous préparer pour tenir ferme contre l'ennemi. Mais on n'insulte pas Satan. C'est fortement stupide et présomptueux. C'est ce que justement ces faux enseignants, ces prétendus enseignants, ils sont présomptueux, ils sont arrogants. Et alors qu'on a l'exemple de l'archange Michel qui n'osait pas parler mal contre un ange déchu, ces hommes prétendent même insulter des anges et des anges déchus. Verset 11, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Ils sont pleins d'orgueil, ils sont aussi pleins d'ignorance. Ils sont, verset 12, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus. Ils calomnient ce qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes. Alors je sais que parmi nous, il y a sans doute des amateurs d'animaux. Les animaux peuvent être des compagnons, peuvent être des aides, peuvent être des êtres pleins de qu'on aime. Mais force est de constater que ils vivent au niveau de l'instinct, ils vivent au niveau du réflexe pavlovien, ils vous lèchent le visage parce qu'ils ont réalisé que quand ils font ça, ils ont souvent un petit gâteau qui vient après. Et ils n'ont pas de capacité de raisonnement ou de raisonner. Alors on peut dire aussi, ils voient qu'il y a un obstacle, ils le contournent. Mais aucun animal n'a laissé une contribution intellectuelle pour l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être attaché à un animal, mais ces gens-là sont dépourvus de raison comme des animaux. Ils ne peuvent pas raisonner logiquement, porter un raisonnement rationnel. Et eux, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils prétendent parler, et en fait, ils sont vraiment ignorants des réalités spirituelles. Ils calomnient ce qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes. C'est fort ça comme langage. Vous voyez le télévangéliste à la télévision avec son visage bronzé, sa coiffure impeccable, ses pectoraux, sa bague en or qui gesticule, qui pousse les gens à la renverse. Et là, il nous dit, en fait, ils sont comme des animaux, ils n'ont aucune faculté de penser sérieusement. Ils vont mourir comme des bêtes. Et là, verset 13, ils recevront alors le salaire de leur injustice. Eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ce sera tout ce qu'ils méritent. Ce sont des paroles très fortes de jugements qui sont loin de ce que on entend dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment être plein de compassion, prier pour ces faux prophètes d'abord, mais on vit dans une église où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il y a des menteurs, il y a des charlatans. Et ceux-là, il faut pas les laisser. Ils savent que la vérité n'est pas ce qu'ils disent. Ils savent qu'ils mentent. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Il y a vraiment de l'immoralité et de la convoitise. Typiquement, c'est la nuit qu'on vit dans la débauche. On profite de l'obscurité pour faire des choses qu'on n'oserait pas faire en plein jour. Mais eux, ils sont tellement imbus de leur personne et à l'aise dans leur vie immorale et injuste qu'ils aiment même, ils trouvent un plaisir à montrer comment ils vivent dans la débauche en plein jour. Ce sont des hommes, ils continuent verset 13, toujours dans cette idée qu'ils sont vraiment de l'immoralité et de l'appât du gain, ils trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont pervertis. Ça veut dire justement pervers, ça veut dire qu'ils quittent le droit chemin. Ils sont souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Ce qui est terrible, c'est de réaliser qu'en fait, ces personnes, elles se font passer pour des membres du corps de Christ. Et ces personnes ne se délectent, se réjouissent de tromper les gens. Ils sont là au milieu des festins, des fêtes. Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère. En fait, littéralement, c'est ils ont dans les yeux une femme adultère. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils voient une femme, ils pensent à l'adultère avec cette personne. Je sais qu'il y a certaines femmes qui m'ont dit être mal à l'aise par moment avec certaines personnes qui peuvent avoir ce genre d'attitude. Et c'est très grave. Et on est, en tant qu'homme chrétien, on est appelé à regarder toutes nos sœurs, toutes les femmes de l'Assemblée comme des sœurs. Non pas comme des objets de notre convoitise. Le Seigneur peut susciter des relations d'amitié qui se tournent en relations d'amour et même en relations maritales. Mais nous devons avoir dans le cœur, nous mettre en garde contre tout genre de regard qui correspondrait à des yeux pleins d'adultère. Ils sont jamais rassasiés de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. C'est un danger. C'est un piège. Jacques parlait de ce phénomène de la pêche ou de piège. C'est le problème lorsqu'on change de version ou de Bible, c'est que les passages qu'on pensait retrouver tout de suite, ils prennent plus de temps à être recherchés. Que personne, c'est Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. C'est des termes de chasse, être attiré, être entraîné par ses propres désirs. On parlait la semaine dernière du fait qu'on ne peut pas attraper un poisson en jetant juste un hameçon brillant, que généralement, à part l'exception du miracle de Jésus-Christ, c'est parce que c'était un miracle que Pierre puisse attraper un poisson avec juste une pièce d'or qui leur permettait de payer leurs impôts. On met quelque chose de bon avec l'hameçon. Et souvent, les mensonges de ces faux enseignants, c'est 5% de mensonges et 95% de vérité. Sinon, aussi avec l'hameçon, on n'irait pas pour l'hameçon, mais s'il y a de la bonne pâte ou d'un bon verre dessus, on va les mordre et se faire prendre par l'hameçon. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Personnes mal affermies, ce sont les nouveaux croyants, ce sont les personnes qui, justement, ne connaissent pas bien la parole, ceux qui sont nouveaux dans la foi. C'est terrible parce que souvent, c'est le plus grand zèle est montré par les personnes qui sont nouvelles dans la foi et qui sont émerveillées par l'amour de Dieu, par la découverte de cet amour, et de penser que ces gens le font sciemment, ils choisissent comme victimes les personnes les plus incrédules, ou les moins solides dans leur foi, dans leur connaissance de la parole. C'est un peu comme les charlatans qui vont escroquer les personnes âgées, qui leur font signer des documents en parce que ces personnes sont moins vigilantes, ces personnes sont plus prêtes à faire confiance à d'autres personnes pour leurs affaires. Là, c'est la même chose. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, la convoitise, toujours vouloir plus. Il y a une doctrine qui suscite pas mal de faux enseignants dans l'Église actuelle, c'est la doctrine de la prospérité. Et souvent, il suffit de voir comment vivent les pasteurs qui se réclament de cette doctrine qui dit qu'en fait, si vous êtes chrétien, Dieu vous aime, il va vous donner la santé, il va vous donner la richesse. Et que si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de finances, c'est parce que vous manquez de foi. Et que pour montrer que vous avez de la foi, vous pouvez envoyer 1000 euros à leur ministère. Et vous verrez comment ce gain va être servir comme une semence qui va se multiplier pour vous. Vous pouvez leur écrire et leur dire qu'ils vous envoient 1000 euros et que ça va marcher aussi dans l'autre sens. Mais non, il y a cet appât du gain. Ils sont entraînés par l'exercice à la soif de posséder. Regardez comment vivent ces personnes. Il y a toujours des scandales où on réalise qu'en fait ces personnes ont des villas somptueuses avec de la robinetterie en or. Ils ont des collections de voitures, des bateaux. Est-ce que c'est comme ça que vivait Jésus-Christ ? On ne prône pas l'ascétisme nécessairement, mais c'est toujours quelque chose qui défie l'entendement. En anglais, on dit « mind-boggling », quelque chose qui dépasse l'intelligence, l'esprit, quoi. Regardez comment ils vivent et cessez de leur envoyer de l'argent. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont à la télévision qu'ils sont dignes de foi. Il y a toute une industrie du télévangélisme. Malheureusement, c'est aux États-Unis où c'est le plus développé, mais ça vient partout. Parce qu'il y a de l'argent à se faire en profitant de la crédulité, du désir des gens de connaître Dieu. Et ça, c'est un terrible péché qui sera puni. Ce sont des enfants de malédiction. Ils vont avoir à rendre des comptes. Ils ont, verset 15, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ça, c'est une référence à un passage bien connu de l'Ancien Testament. C'est le passage du livre des Nombres, Nombre 22. C'est juste avant le Deutéronome. Il y avait un roi dénommé Balak qui avait peur du peuple juif qui arrivait dans la région et qui avait demandé à un certain Balaam, qui était connu comme un prophète, quelqu'un qui avait reçu un don de Dieu, et ce roi Balak avait demandé à ce Balaam de maudire le peuple d'Israël qui arrivait. Et Dieu avait parlé à Balaam en lui disant qu'il ne pouvait pas maudire le peuple car il était béni. Et si vous vous avez le temps, je vous invite à, pas maintenant, mais plus tard, à lire le chapitre 22 du livre des Nombres. On voit comment Balaam va dire au roi Balak qu'il ne peut pas dire de malédiction, mais le roi est malin et il continue d'offrir davantage de choses à Balaam en échange de cette malédiction. Et Balaam, le prophète, le faux devin, se laisse convaincre petit à petit parce qu'il est motivé par le gain, par l'appât du gain, la convoitise. Il ne peut pas maudire parce que le Seigneur lui a dit non, tu ne maudiras pas, il ne peut pas le faire. Lorsqu'il essaye de le faire, ses malédictions deviennent des bénédictions. Et il y a un épisode intéressant auquel il est fait allusion, l'ânesse muette, c'est lorsqu'il part pour aller retrouver le roi Balak et voir comment il va pouvoir assurer la perte d'Israël. Il monte sur son âne et l'ange de l'Éternel se place sur les chemins pour résister à cette avancée de Balaam. Il est sur son ânesse. L'ânesse, on a dit que c'était un animal qui n'était pas capable de raisonnement logique, mais elle voit l'ange de l'Éternel, l'épée dégainée à la main, et elle s'écarte du chemin, et celui qui la monte, Balaam, la frappe pour la ramener dans le chemin. À un moment, elle voit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est posté sur un sentier dans les vignes entre deux murs, et elle voit l'ange de l'Éternel, lui n'a rien vu, il est totalement insensible aux choses spirituelles. Elle évite l'ange de l'Éternel et elle presse le pied de Balaam contre le mur. Et du coup, il lui redonne un autre coup de bâton. Puis un moment où elle ne peut plus passer, l'ange de l'Éternel la bloque, et là elle s'affaisse sous celui qui la monte, sous Balaam. Et il continue, sa colère s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. Et puis là, c'est un âne qui parle au prophète, un miracle, l'Éternel fit parler l'ânesse. Et elle lui dit, « Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes trois coups de bâton ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de s'émerveiller de ce que son âne lui parle, Balaam répondit à l'ânesse, il engage la conversation, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Je ne suis pas ton petit ânesse que tu as monté depuis toujours aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'habitude de te faire du mal ?» « Non, répondit-il. » Et c'est incroyable. Finalement, l'Éternel ouvre les yeux de Balaam, il voit l'ange de l'Éternel qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu as battu ton ânesse ?» Et là, il confesse qu'il va retourner chez lui, il ne va pas aller maudire. Mais l'ange de l'Éternel, maintenant, répète, tu iras répéter les paroles que je te donne. Bref, l'histoire, je vous laisse la lire. Chapitre 23, on voit une première bénédiction par Balaam, une deuxième bénédiction, une troisième bénédiction. Et finalement, le roi Balak est en colère contre Balaam, à qui il a donné et promis des choses. Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les as déjà bénis trois fois. Et à ce moment-là, Balaam, qui ne peut pas maudire Israël, a recours à un autre piège, un autre plan. Il dit au roi qu'il peut faire séduire les Israélites par des femmes moabites. Et donc ça c'est le chapitre 25. Et c'est ainsi que, tenté par ces femmes qui venaient du royaume de Balak, les Israélites vont être tentés et vont se laisser corrompre. Ils vont se livrer à la débauche et ils vont être punis par Dieu. Mais cet homme, Balaam, est resté dans la parole comme quelqu'un, comme l'archétype du faux prophète, de celui qui ne voit rien de spirituel, qui est préoccupé par son gain, sa convoitise personnelle. Il est question de lui dans le livre des Nombres, ici dans 2 Pierre 2, 15, où il est dit qu'ils ont suivi la voie de Balaam. Dans Jude, qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que c'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés. Et dans l'Apocalypse 2, 14, lorsque Jésus parle à l'église de Pergame, qui veut dire que c'est un mélange de mauvaises et de bonnes choses, il est question de la doctrine de Balaam. Donc la voie de Balaam, l'égarement de Balaam, la doctrine de Balaam, c'est des choses que la Bible enseigne pour nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et la doctrine de Balaam, c'est le fait qu'il enseignait à Balak que pour trouver une occasion de chute pour les fils d'Israël, il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles et se livrait à la débauche. Ces faux prophètes, ils utilisent la même technique que Balaam. Verset 17, ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. Ça, ce sont leurs prétentions du verset 17 à la fin 22. Ils promettent d'étancher la soif spirituelle des gens. Envoyez-moi un don comme une semence de 1000 dollars ou 1000 euros et vous connaîtrez les choses profondes de Dieu. Vous découvrirez comment vous pouvez faire confiance à Dieu. Ces gens-là sont des sources sans eau. Je ne sais pas si vous avez quelquefois eu l'occasion de faire une marche où vous n'avez plus d'eau, où vous espérez trouver de l'eau à un endroit et vous arrivez et la source ne coule plus, où vous espérez trouver de la San Pellegrino à l'épicerie du village, mais l'épicerie est fermée. Et quand on a bien soif, de ne pas trouver d'eau qu'on espérait, c'est très dur. Ces gens-là, comme il est dit ici, sont des sources sans eau. C'est un puits reste un puits. Une source qui n'a plus d'eau, c'est plus une source. Jésus-Christ avait dit que celui qui venait à lui aurait comme des torrents d'eau vive qui couleraient de son sein. Si vous n'êtes pas désaltéré spirituellement, changez de source. Sont des nuages poussés par la tempête. Là aussi, il y a des fois, les agriculteurs espèrent que la pluie va enfin arriver. Avec El Niño, il y a beaucoup d'endroits en Californie qui sont dans une sécheresse terrible, qui tuent les cultures, etc. Il peut y avoir des nuages qui arrivent, mais si l'eau ne tombe pas, s'il n'y a pas de pluie, C'est comme un espoir déçu, c'est terrible. Et ils sont, pour l'éternité, ils sont appelés à être dans l'obscurité des ténèbres. On pense que l'enfer est un endroit où il y a du feu, mais c'est aussi un endroit de ténèbres. peut imaginer que le feu qui est là, il couve, il y a peut-être quelques braises qui sont terribles, mais c'est un endroit d'obscurité, il n'y a pas de lumière. Ce sont des nuages poussés par la tempête et ils sont prévus, ce qui leur est réservé, c'est les ténèbres. Ils vont périr, ils vont aller en enfer. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège, encore cette idée de piège, des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ou alors certains manuscrits disent ceux qui sont en peine échappés, qui viennent juste de s'échapper de l'égarement, ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ça, c'est un grand principe. Chacun est esclave de ce qu'il sert, de celui ou de ceux qu'il sert. Si je suis dominé par quelque chose, j'en deviens l'esclave. Et ces personnes qui promettent la liberté, qui vont vous faire connaître Dieu et vous donner la liberté, en fait, eux-mêmes sont dominés par des passions, par le désir du gain. Et là, verset 20, « En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça fait du bien un peu d'entendre cette expression. » Dans cette peinture de corruption, de fausses religions, de faux prophètes, de prétendus enseignants, la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont pour un temps apparemment connu le salut en Jésus-Christ, mais ils se laissent reprendre et dominer par leurs passions et les souillures du monde. Pierre dit qu'il est plus, leur condition est plus terrible. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu qu'ils ne rencontrent jamais Jésus plutôt que de le connaître un peu et après de pervertir la foi en Christ pour leurs intérêts personnels. Ils se sont détournés du saint commandement qui leur avait été donné. Et là, il cite deux proverbes, des expressions qu'on retrouve dans les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Bon appétit. La Bible est graphique. Et c'est terrible de penser qu'on peut... avoir été soigné de certains péchés, guéri en quelque sorte, avoir vomi des choses qui n'étaient pas bonnes. Et là, la parole de Dieu nous dit que si on a fait ça, mais qu'on revient à ces mêmes péchés, c'est aussi beau, aussi appétissant, aussi ragoûtant qu'un chien qui revient voir ce qu'il a dégueulé et qui commence à le lécher, à le reprendre. Désolé. C'est pas moi, c'est Pierre. La truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ce qui compte, c'est la réalité intérieure de votre foi. On peut prétendre, on peut apprendre le vocabulaire, on peut connaître les expressions chrétiennes. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut prendre un cochon, un petit cochon mignon, qui naturellement va se vautrer dans la boue, dans la bourbier. On peut bien le nettoyer pour le concours du plus beau petit cochon. Il peut même gagner une médaille qu'on lui mettra autour du cou. On peut lui mettre des petits nœuds, des rubans. Il sera tout mignon, tout rose. Mais dès qu'on le lâche, dès qu'il aura l'occasion, il va retourner se vautrer dans le bourbier. Ça fait penser à l'histoire du fils prodigue. il avait été manger ce que les cochons mangeaient, mais au fond de lui, il était un fils. Donc il est revenu au Père. Par contre, le cochon, à l'intérieur, il est un cochon. Il va retourner avec les cochons se vautrer dans la boue. Je préférerais parler de la beauté des cieux. Mais si Dieu a mis plusieurs fois et à plusieurs reprises ce thème et ces avertissements dans sa parole, c'est parce que nous en avons besoin. Méfiez-vous des charlatans. Méfiez-vous des gens qui paraissent très spirituels, chez lesquels il n'y a pas d'humilité, chez lesquels, ou alors une fausse humilité, c'est peut-être un peu plus difficile à détecter, déceler. Mais je veux mettre en garde aussi on a vu souvent, c'était auprès des femmes que ces faux enseignants, ces prétendus enseignants choisissaient comme proie. Dans 2 Timothée 3:6, on va terminer avec cet avertissement. 2 Timothée 3:6. On va lire à partir du verset 1, 3. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Verset 6. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et puis il continue, leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de Jannès et Jambrès, deux exemples d'hommes qui sont opposés, qui ont trahi, qui n'étaient pas de vrais croyants. C'est souvent auprès des femmes crédules, ça peut être les personnes qui sont dans la difficulté, des femmes dans la difficulté, à qui il manque la stabilité d'une famille, ou que ce soit un mari ou un père, ou qui a un environnement solide. Souvent, ces personnes, et c'est peut-être pas nécessairement des télévangélistes, ça peut être quelqu'un qui a une bonne réputation dans l'Église. Ces hommes profitent de l'incrédulité de ces femmes. Ils profitent de se faire valoir comme des hommes très spirituels, et en fait, ils cherchent que la satisfaction de leurs désirs. Soyons en garde. Si nous sommes conscients de ces personnes, de ces situations, nous devons réagir, nous devons confronter ces personnes, nous devons mettre en garde ceux qui pourraient être leurs victimes. Encore une fois, je préférais ne pas avoir à enseigner ces choses, mais Dieu nous demande de savoir ces choses et d'être en garde. Amen.